Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, donc nous allons, s'il vous plaît, lire deux passages qui vont nous introduire dans notre méditation ce soir. Alors, ce sont des paroles d'exhortation, hein. Exhortation à faire confiance à Dieu, quelles que soient les situations qui sont les nôtres. Et on proclame que notre Dieu est un Dieu de délivrance, un Dieu qui fait des grandes choses et qui, eh bien, est capable de produire ce que nous n'avons jamais imaginé ou pensé dans notre vie. Alors, le psaume 121, s'il vous plaît. Je vais lire d'abord les deux premiers versets. On y reviendra un petit peu plus tard. Le psaume 121. Alors, il n'y a pas de souscripteur. On ne sait pas qui c'est qui l'a écrit. Alors, peut-être David, peut-être Salomon, peut-être Asaph. Je ne sais pas, mais toujours est-il que c'est un beau poème et qui a certainement été remarqué par nombre de chrétiens dans l'histoire, finalement, l'histoire du christianisme, parce que c'est un cantique, enfin c'est un psaume qui nous parle à la fois des détresses humaines, mais de la puissance de Dieu. Alors voilà, et vous connaissez certainement déjà les premières lignes, on l'a appelé le cantique des degrés, et il est dit ceci: « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » On va y revenir d'ici quelques instants, mais j'aimerais que nous lisions un deuxième passage qui m'est revenu en mémoire il y a quelques instants, et je pense que c'est un bon complément à notre message de ce soir. Alors ça se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 2, et verset 9. Parce qu'il n'y a rien de tel lorsque nous sommes désemparés, lorsque nous sommes dans, que nous connaissons le désarroi. Le savoir est un Dieu qui, eh bien, parle à ceux qui l'invoquent, ceux qui crient à lui. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 2, bien que ce ne soit pas le contexte, mais je le rajoute quand même à notre méditation ce soir, je lui donne finalement, eh bien, un prolongement à ce que nous avons lu. Et écoutez bien ce qui est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9. « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, et il est ajouté des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il l'aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. » C'est intéressant de le prendre en considération, ce deuxième texte, parce que finalement, le psaume que nous avons lu il y a un instant sous-entend, naturellement, je lève les yeux vers les montagnes et d'où me viendra le secours, c'est en quelque sorte un appel à l'aide. C'est un cri de détresse, hein, d'un voyageur probablement, d'un pèlerin qui se dirige vers Jérusalem et qui se tourne vers, qui regarde le mont Sion. Vous savez, le mont Sion à Jérusalem, parce que c'est là où Dieu résidait et c'est là où, s'il y avait un secours quelconque pour le juif, pour l'hébreu, eh bien c'était de regarder dans cette direction. Et c'est là où il reprenait peut-être de l'espérance. Mais on peut regarder des montagnes. Et puis, ben voilà, des montagnes dans la vie, il y en a. Hein. Il y en a, c'est vrai, qui sont quelquefois effrayantes, qui sont terrifiantes. Les difficultés, les vicissitudes de l'existence nous semblent des montagnes, et puis on n'y trouve peut-être pas le secours. Mais déjà, de regarder vers la montagne, ça nous donne un regard vers le ciel, déjà. C'est mieux que de regarder dans bas d'une vallée, sombre, sinistre. C'est encore une autre façon de penser. Donc ça sous-entend une situation d'incertitude pour l'homme qui sent le danger autour de lui, peut-être le péril, les menaces, peut-être une grande détresse. Et c'est vrai que on en a fait un cantique, hein, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra du secours ». On l'a chanté il y a dans la période de la réforme, hein, pour les protestants, parce qu'ils avaient certainement de quoi eh bien, s'angoisser, hein, devant la persécution qu'il y a eu pendant les guerres de religion. Et aussi, c'était souvent les Cévenols qui chantaient ça, parce qu'ils étaient dans un pays de montagne, et voilà. Et il y a eu toute une épopée, il y a eu toutes sortes de choses qui étaient tragiques, et ils se sont emparés finalement de ce psaume, comme nous pouvons nous l'approprier encore aujourd'hui lorsque nous sommes devant des montagnes, devant des situations qui sont insurmontables, infranchissables. Et c'est peut-être certainement dans ce contexte que nous pouvons découvrir, eh bien, ces quelques paroles. Vous remarquerez avec moi que ce psaume, d'abord, c'est un questionnement: qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir, hein? D'où me viendra le secours, la question. Et puis le psalmiste dira tout de suite: mais le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et là nous touchons du doigt la création de Dieu, ce Dieu qui a tout créé. Alors, s'il a créé l'univers, s'il a créé les montagnes, la mer et puis tout le reste, le ciel et la terre, comment moi, petit être, pas plus gros qu'une fourmi sur cette terre, eh bien, ne ferait-il pas quelque chose pour moi? Parce que s'il a fait le plus grand, il est capable de faire le plus petit. S'il a fait l'immense, il est capable de faire ce qui est minuscule, comme je peux représenter ma petite vie, finalement. Donc, il est parlé, et ce psaume, on va le dérouler un petit peu, mais je ne veux pas le commenter, hein. Donc, le Dieu de la création, nous l'avons vu ensemble, et puis c'est le Dieu de l'histoire aussi. Et ça peut être, Dieu peut devenir le Dieu de notre histoire. Eh oui, parce que on sait très bien que la Bible, c'est un livre d'histoire qui nous parle dans l'Ancien Testament, eh bien, de la manière dont Dieu a choisi son peuple, Israël, etc., comment il l'a conduit. Il y a plein d'histoires d'abord. C'est vrai, c'est extraordinaire. C'est un livre historique. Et puis, on peut savoir, et puis on peut l'interpréter lorsque on se fait plus proche de Dieu ou que Dieu se fait plus proche de nous. Enfin, le ressenti que nous pouvons en avoir, c'est que Dieu n'est pas seulement le Dieu de l'histoire en général, mais le Dieu de notre histoire. Pour chacun d'entre nous qui sommes là, il y a une histoire. Ça, c'est pas possible, autrement, on serait certainement ailleurs. Il y a quelque chose qui nous a marqué pour finalement engager notre foi en lui, notre confiance, notre fidélité finalement, à son œuvre, à sa personne. Hein, je mets pas les choses en ordre, mais sa personne d'abord et son œuvre ensuite. Hein. Et c'est notre histoire aujourd'hui. Notre histoire, elle a commencé d'ailleurs. L'histoire des hommes, même des incrédules, c'est toujours avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Jésus-Christ étant finalement, eh bien, hein, le cœur même de l'histoire, peut-être même en dehors finalement de la foi. Hein. Donc c'est le Dieu de l'histoire, il nous l'a dit d'ailleurs. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde et ne sommeille point, nous dit le texte. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui te garde, Israël. Et ça, c'est une expérience que nous pouvons faire, c'est que Dieu veille sur nous. Ouais, il veille sur nous, peut-être au moment où nous l'avons rencontré, eh bien, il est venu nous chercher au plus grave de notre vie, au plus profond de nos ravins, de nos chutes, et pour bien permettre de comprendre que faut lui faire confiance. Hein, moi, je crains de tomber. Je crains de chuter, mais ça, c'est peut-être très préservateur, et c'est bien, parce que celui qui n'a peur de rien, bah, il tombe, parce qu'il ne voit pas le danger, et puis il se moque du danger, mais un jour ou l'autre, c'est ce qui lui arrivera. Et de nous dire, mais ce Dieu dans lequel tu mets ta confiance, eh bien, il n'est pas comme toi. Parce que d'ici 2 ou 3 heures, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dormir, vous allez sommeiller, enfin, vous allez dormir plutôt. Et lui, il nous a dit qu'il n'y a ni jour ni nuit. Voilà, le Seigneur est là de jour, il est là de nuit, il est là auprès de nous, il est au plus proche de nous, que je sois conscient, que je sois dans le sommeil. Donc ça, c'est aussi, eh bien, il se manifeste dans notre histoire, que nous en soyons conscients ou inconscients. Et puis, c'est le Dieu de l'homme, c'est le Dieu des hommes. Nous l'avons, par exemple, au verset 5, l'Éternel est celui qui te garde. C'est beaucoup plus personnel que ce que nous avons vu déjà précédemment. Eh oui. C'est personnel, il te garde. C'est comme dans le psaume 23, hein, l'Éternel est mon berger, et puis à bout d'un certain temps, eh bien, ce n'est pas l'Éternel. Eh bien, après, c'est quelque chose de beaucoup plus personnel à travers eh bien, les versets qui viennent. En quelque sorte, c'est cette intimité que nous trouvons. Relisez-le, le psaume 23, vous verrez, vous découvrirez à un moment donné, c'est au départ un Dieu quasiment impersonnel, c'est impersonnel, c'est l'Éternel est mon berger, bon, c'est une généralité, si vous voulez. Puis après, c'est, mais toi, Seigneur, c'est toi qui me garde, c'est toi qui me bénis, c'est toi qui me fait traverser la vallée de l'ombre de la mort, et qui me garde, et je ne crains aucun mal, naturellement. Hein. Donc, c'est le Dieu de l'homme, le Dieu personnel de l'homme. Celui qui te garde, l'Éternel, est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te fera point, ni la nuit, eh bien, tu ne craindras rien. Et puis, il y a également, en terminaison de ce psaume, parce que c'est un petit psaume qui fait quand même 8 versets, c'est pas grand-chose, eh bien, il nous est parlé que c'est le Dieu de l'éternité. Quand vous réunissez tout ça, L'œuvre de Dieu se manifeste à travers sa création, il se manifeste dans l'histoire, il se manifeste dans une histoire personnelle avec nous. Puis c'est le Dieu de l'éternité, c'est-à-dire que ce qu'il est aujourd'hui pour nous, il le sera encore autant qu'il y aura des hommes sur la terre. Mais comme il l'a été finalement dans toute l'histoire d'hier et d'avant-hier, en quelque sorte, autrefois, jadis. Et c'est ce qui nous est dit, mais l'Éternel te gardera. Donc on voit la relation personnelle qu'il peut y avoir. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme, parce que c'est souvent de là que viennent les choses. Hein. C'est le cœur de la personnalité humaine, et puis ensuite le corps, naturellement, à sa place. L'Éternel te gardera ton départ, il gardera ton arrivée. Voilà, dès maintenant et à jamais. Dieu d'éternité. Alors, ceci dit, pour introduire, j'aimerais justement que nous allions dans quelques exemples à l'appui. Nous allons les mettre un petit peu en corrélation je voudrais simplement que nous mémorisions « Le secours me vient de l'Éternel ». Je ne sais pas comment, je ne sais pas comment il va faire, je ne sais pas où il va le faire, je ne sais pas pourquoi il va le faire. Enfin, je me doute maintenant, après avoir lu ce chapitre, ce psaume 121, que c'est un Dieu bienveillant, donc le pourquoi est déjà quelque part bien répondu. Mais « Le secours me vient de l'Éternel » nous parle. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. Alors, moi, je voudrais vous parler d'un personnage qui est haut en couleur d'abord, qui est très présent dans les évangiles, c'est l'apôtre Pierre. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça un petit peu ? Pierre était un homme téméraire, il était un homme hardi, il n'avait pas de crainte, enfin quoique, il a fait la démonstration que la peur l'a emporté finalement sur son naturel, hein, sur sa personnalité, mais vous savez qu'un jour, Pierre, il a levé une épée contre tous ceux qui voulaient du mal à Jésus. Et dans Matthieu, on va aller voir ça un petit peu, parce qu'il y a une réponse. Je regarde vers les montagnes, d'où viendra le secours, mais le secours me vient de l'Éternel. Et vous savez, il a été surpris, Pierre, parce que Jésus, ce jour-là, lui a donné une sacrée leçon, que ce n'est pas ce que nous voyons qui est important, c'est de croire que lui est notre défenseur, qu'il est celui qui, eh bien, a tout pouvoir, et ce qui est visible et ce qui est invisible. Et dans Matthieu chapitre 26, hein, c'est dans le contexte de la passion de Jésus, et au verset 50, on va retrouver ça ensemble, on va pouvoir le lire, il y a cette histoire qui est quand même assez particulière, on va prendre le passage. Alors vous savez, c'est au moment où Jésus est saisi, là, après le jardin de Gethsémané, il y a une cohorte de soldats, Judas en tête naturellement, et vous savez ce qu'il a fait, et il y a toute un tumulte qui se passe à ce moment-là. Et il nous est dit au verset, je peux commencer au verset 50. Verset 50, c'est Jésus qui s'adresse à Judas et je lui dis, mais mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Et c'est après la suite qui est intéressante. Alors, ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Pierre était témoin de cette affaire, il était certainement peut-être le plus proche à ses côtés. Et il a vu que Jésus, son ami, Jésus son maître, celui qu'il avait suivi depuis 3 ans, celui qu'il vénérait, celui qu'il écoutait, eh bien, on est venu porter la main sur lui pour le saisir et le faire prisonnier. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus, alors on sait que c'est Pierre, étendit la main et tira son épée. Vous rendez compte ? Je suis surpris que les disciples de Jésus avaient une épée. Vous rendez compte qu'on se promène tous avec une épée parce qu'on est chrétien ? Qu'est-ce que vous en pensez ? On sera en Amérique, on aura le droit au port d'armes. On pourrait venir avec une Kalachnikov, par exemple. Sans problème. Enfin bon, je retire ce que j'ai dit parce que c'est pas sérieux. Mais c'est curieux que Pierre ait une épée. Bizarre. Jésus qui est tout puissant. Jésus qui a finalement, l'autorité souveraine dans les cieux et sur la terre. Et voilà qu'un de ses disciples se promène avec une épée. Bizarre. Mais enfin bon, on va voir ce que ça va donner après. Et il étend sa main, il tira son épée, et il frappa le serviteur du souverain sacrificateur, et lui emporta l'oreille. Dites-moi, comment s'appelait-il ce serviteur ? Malchus, voilà. Hein, voilà. Vous vous rendez compte, il a perdu une oreille, le pauvre. Ça a dû faire quand même, ça fait du remue-ménage. Hein. Couper l'oreille, mais il aurait pu lui fendre la tête en deux. Hein. C'est une guillotine à l'envers, là. Hein. Mais toujours est-il que, bon, ça s'est passé comme ça. Le texte nous le dit dans Matthieu et il nous le dit également dans Luc. Donc ça a été quand même un événement à ce moment-là. Hein. C'est une arrestation sanglante. Et c'était certainement pas dans la volonté de Jésus, pas dans la volonté de Dieu non plus. Mais combien les hommes, quand ils sont pris de peur, sont capables de faire des bêtises, sont capables de faire des choses qu'il ne faudrait pas faire. Alors, Jésus va, dans Luc c'est marqué, il va guérir miraculeusement l'oreille de Malchus, comme témoignage, dernière guérison divine, dernier témoignage, finalement, eh bien, de la compassion, et parce qu'il était pour rien, Malchus, hein, il était là, c'était tout. Hein. Mais toujours est-il qu'il l'a guéri. Alors Jésus dit à Pierre, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Ça s'est justifié à travers tous les siècles. Parce que notre défense, elle n'est pas là. Notre défense, elle est ailleurs. Et si je regarde vers les montagnes d'où me viendra le secours, c'est pas de prendre une épée. C'est pas de prendre des moyens humains. Et des moyens qui sont des moyens violents. Des moyens qui sont les moyens des hommes. Parce que depuis Caïn, c'est ce qui s'est passé, hein. On connaît. Si je fais référence à Caïn, parce que bon, on sait cet épisode, finalement, qui est consigné dans la Bible. Et voilà, Jésus va lui dire ces paroles. Lui qui pensait que c'était par la force, Pierre, qui pensait que c'était par la violence, parce qu'il était ulcéré de voir Jésus prisonnier à ce moment-là. Moi, je crois que sincèrement, Pierre aimait profondément Jésus. Mais comme quoi un homme peut se retourner d'un moment à un autre, hein. Hein, Pierre qui avait fait des imprécations, je te suivrai partout où tu iras, voilà, je mourrai pour toi. Jésus lui a parlé d'un coq, hein, et finalement, il a chanté le coq, hein, pour lui montrer que tous nos moyens humains pour nous défendre, pour trouver du secours, pour trouver de l'aide. Pierre, quand il a vu cette foule de soldats, quand il a vu ces gens qui hurlaient, qui vociféraient contre Jésus et qui allaient l'emmener, il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, mais il n'a pas eu le réflexe du psaume que nous avons lu, hein. Là, il a sorti son épée. Et Jésus va lui dire cette parole, parce que c'est ça ce que je voudrais dire, à la suite de l'histoire que nous venons de dire, sur Pierre. Il dira, mais penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? Il y a des choses qui sont arrêtées d'avance. Il y a des choses qui sont inéluctables. Il y a des choses où Jésus le dira pour d'autres raisons, mais il dira pas, finalement, il ne tombera pas, eh bien, un iota avant que la parole de Dieu soit accomplie, de la lettre, c'est ça, hein, naturellement. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Jésus était venu pour accomplir une mission. Hein. Et c'est pour nous, parce que devant les dangers, les détresses dont nous avons parlé, que nous cherchons en haut, en bas, les montagnes, qui me donnera du secours? Eh bien, nous nous apercevons que, de toute façon, quoi qu'il en soit, le Seigneur a prévu la délivrance pour ceux qui espèrent en lui. Mais là, on peut dire que Pierre a eu une déficience. Pourtant, il avait vu des miracles. Pourtant, il avait vu guérison, résurrection. Il avait vu délivrance, il avait vu des prodiges. Mais non, c'était pas suffisant. Donc, c'est pas le prodige qui nous donne la foi, hein. Parce que là, nous voyons que la foi de Pierre, en un instant, en l'espace de peu de temps, elle va être renversée pour recourir encore à des moyens humains. Et Jésus nous en parle dans le sermon sur la montagne, dans les béatitudes. Ouais, heureux vous que l'on persécutera, etc., etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus va l'interpeller et va lui dire, mais penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père? Et il me donnerait à l'instant, tout simplement, 12 légions d'anges. Je serais combien, ça? C'est combien une légion? 10 000 personnes, hein? Oui, à peu près, oui. Bon, vous avez fait votre service militaire, mesdames, non? Bon, mais peu importe. Enfin, ça fait un nombre considérable. Parce que une légion, c'est peut-être même plus qu'un régiment, hein. Je ne sais pas. Je connais pas. Mais toujours est-il que, alors Pierre, qu'est-ce que tu fais dans cette affaire? Où tu en es? Oui. C'est les réactions de peur. Et c'est des réactions de sentiment. Mais, c'est vrai que le sentiment rentre pour une bonne part dans notre vie, dans nos actions ou nos réactions. Là, c'est plutôt une réaction, hein, immédiate. Mais quelquefois, eh bien, ça nous fait faire des bêtises. Et heureusement que Jésus était là pour réparer la faute, hein. Parce qu'il est question d'un secours tout-puissant, un secours caché. Si c'est pas sur terre qu'il y a le secours, eh bien, mon ami Pierre, s'il n'est pas là en bas, toi tu le cherches désespérément, tu as sorti ce que tu avais sous la main, mais c'est pas l'arme qu'il faut, c'est pas une arme. Mais dans le ciel, il y a des possibilités infinies que nous méconnaissons, et nous allons les voir d'ici quelques instants. simplement « J'invoque à l'instant et Dieu va me prêter son secours. Le secours me vient de l'Éternel. » Ça, c'est l'ancienne, naturellement, conception que l'on avait dans l'Ancien Testament, mais c'est encore valable et encore plus valable dans le Nouveau Testament quand on sait que Jésus nous dit qu'il intercède pour nous, qu'il est là tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde, qu'il est près de nous, qu'il est même pour les chrétiens qui sont véritablement nés de nouveau, qu'il est en nous. Donc nous avons tout. Ne cherchons pas une épée dérisoire, ne cherchons pas un moyen, ne cherchons pas une échappatoire. Ou un échappatoire, je ne sais plus comment on dit, c'est un échappatoire peut-être, hein. Mais bon, peu importe, vous avez compris ce que ça veut dire, mais toujours est-il qu'il y a quelque chose qui, si ça ne, c'est pas de recourir aux choses de la terre, quelquefois nous avons vu des chrétiens, des enfants de Dieu qui sont en panique, hein, et qui là, eh bien, font n'importe quoi, parce que bon, ils ne savent plus quoi faire, et ils en oublient que l'essentiel, c'est de regarder le Seigneur. D'où me viendra le secours? Ben, s'il ne vient pas d'en bas, il est déconseillé d'aller chercher en bas, alors à ce moment-là, eh bien, il faut regarder en haut, regarde la foi, parce qu'au-dessus de tout ce qui est visible, eh bien, il y a Dieu, et il est capable de faire la démonstration de quelque chose d'inouï. Vous vous rendez compte, 12 légions d'anges, c'est quelque chose, c'est pas n'importe quoi. Il y a un second exemple que j'aimerais partager avec vous. Alors, on le trouve auprès d'un personnage qui nous montre ce qu'est la vraie foi. Il s'appelle Jonathan. Vous connaissez ? Ah ouais, tout le monde connaît Jonathan, hein. Et il va faire la démonstration que ce n'est pas dans... lui, il va faire la démonstration que ce n'est pas dans le grand nombre, dans la grande puissance, dans la grande force que Dieu nous délivre. Alors, on va voir ça dans 1 Samuel, chapitre 14, verset 6. Et on va lire un petit peu cet épisode. On sait que les armées d'Israël sont confrontées avec les armées des Philistins. Et les Philistins sont forts, hein. Oui, oui, il faut bien le dire. Et ils tiennent le pays d'une main sous leur férule. Et il est en train d'humilier le peuple élu, il est en train d'humilier Israël. Et puis, ils se demandent comment ils vont remporter cette bataille, parce que c'est une bataille cruciale. Elle se passe dans un endroit qui s'appelle Micmac, hein. Et nous voyons que toute l'armée d'Israël est en débandade. Il y a pourtant des vaillants soldats, mais ils sont plus là, les vaillants soldats. Ils ont tous peur. Alors, c'est toujours un facteur de peur, hein. Et la peur, c'est un sentiment. Un sentiment qui, quelquefois, peut être préservatif, mais un sentiment qui peut nous détruire aussi, hein. Parce que, bon, la peur, elle a besoin d'être maîtrisée, elle a besoin d'être dominée. Et pour la dominer, moi, je pense que, comme la Bible le résume, hein, la foi bannit la crainte. Et ça, on l'a pas toujours, hein. Parce que, quelquefois, on peut dire j'ai la foi, mais dans certaines circonstances, on n'a pas la foi du tout, on a la peur. On a la crainte, et c'est là où on peut faire des bêtises, comme nous l'avons vu avec Pierre. Alors, on va lire ce passage, hein, donc de 1 Samuel. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, parce que Jonathan c'est un prince, il est fils du roi Saül, donc il avait toujours un accompagnateur, un jeune homme, hein, on appellera l'écuyer tout simplement, et il va dire à ce garçon, à ce jeune garçon qui est avec lui, viens, et poussons jusqu'au poste de ces Philistins circoncis dans le texte. Peut-être que l'Éternel, il dit ceci, peut-être que l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre, comme d'un grand nombre. Celui qui portait ses armes lui répondit, fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment, me voici avec toi, prêt à te suivre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils étaient deux, et ils ont vaincu une armée entière. Faut le faire, hein. Tous les deux, parce qu'ils ont osé la foi. Parce que quelque part, il y avait dans le cœur de Jonathan, eh bien, ce sentiment que tout le monde les avait abandonnés. Ils étaient plus que deux sur le terrain de bataille, devant une armée où il y avait peut-être, moi, 3000, 4000, 5000, peut-être 10 000 soldats, enfin, des combattants de Philistins. Ils étaient plus que deux, vous rendez compte? C'est là où véritablement il y a une disproportion de nombre. Et quelquefois, on se sent bien seul dans les épreuves. Il peut y avoir des amis, il peut y avoir... Mais même s'ils comprennent, même s'ils compatissent, même s'ils prient, même s'ils font beaucoup de choses, etc., etc., on est vraiment seul quand on est en souffrance, quelle qu'elle soit physique ou morale. Et c'est un peu la configuration dans laquelle on se retrouve avec l'histoire de Jonathan et puis de ce combat avec les Philistins. Et il se dit, mais qu'est-ce que l'on va faire? On n'est que deux. Et tous les autres sont partis, tous les nôtres. L'armée est en débandade, ils ont tous eu peur, ils sont partis. Et c'est là où véritablement est montée dans le cœur de Jonathan cette pensée. C'est pour ça que j'ai lu le deuxième texte. Quand il nous est dit, mais c'est pas monté au cœur de l'homme. Et que finalement, eh bien, ce sont des choses que Dieu a cachées, que Dieu a données, et qui sont révélées par le Saint-Esprit. Et vous savez, dans les moments difficiles, on peut lire la Bible, naturellement. On peut se fortifier, c'est conseillé d'ailleurs. On peut prier. Mais quelquefois, nous recevons des réponses qui sont étonnantes et qui montent dans notre cœur au dernier moment, à l'instant, dans l'instant T, où là, nous savons ce qu'il faut faire après avoir tergiversé et ne pas savoir quelle direction prendre et quelle attitude avoir. Eh bien, c'est ce qui se passe dans, finalement, chez ce jeune Jonathan. Et il va dire à son compagnon, mais viens et poussons jusqu'au poste de ses ennemis. Peut-être, dira-t-il, et ça, je crois que c'est quelque chose d'important, peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous et il va affirmer sa foi. Parce que quand il dit peut-être au départ, c'est pas un doute. Moi, pour moi, c'est une affirmation. Quelque part qui va se confirmer. Car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Vous savez, dans le monde dans lequel nous sommes, c'est rassurant d'avoir beaucoup de monde autour de nous. Et vous savez que les gens se confortent et s'encouragent par le conformisme mondain qu'il y a autour de nous. Ah! Parce que nous avons la majorité. Parce que tout le monde fait pareil. Parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, etc., etc., ben nous sommes les plus forts et nous allons y aller. Ben vous savez, il y en a beaucoup qui sont descendus, hein, de leur orgueil et à cause de ça, justement. Vous vous rendez compte? Il va lire ces paroles qui est montée dans son cœur. Rien n'empêche l'Éternel de sauver. Et lui, il avait fait véritablement cette analyse spontanée intérieure que même il pouvait être deux, il n'était pas deux. Il y avait Dieu avec eux. Et vous savez, connaissez l'histoire. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est dans Romains, chapitre 8. Oui. Qui nous accusera? Mais c'est Dieu qui justifie. Et moi, je pense qu'ils ont été, ces deux garçons, jeunes gens, des agents de Dieu privilégiés pour recevoir la pensée de Dieu et remporter la victoire. Alors, c'est historique, c'est symbolique si vous voulez aller par là, mais ça peut nous servir aussi, que quand on se sent seul, je tourne les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours, et je me sens tellement seul, moi, avec mon problème, complètement englué dans ma difficulté, et je me dis, mais non, c'est fini, c'est perdu. Non, c'est pas perdu. Parce que je pense que cette parole que Jonathan eut dans son cœur, eh bien, il l'a reportée sous forme de prière, mais rien n'empêche à Dieu, petit ou grand. Vous connaissez l'histoire de Gédéon avec ses 10 000 soldats qui sont partis à la guerre? Vous savez l'histoire des pots cassés, là? Hein, où il nous est... Dieu a dit, mais vous êtes trop nombreux! Trop nombreux! Ils avaient une armée, mais alors, infiniment plus forte qu'eux. Et Dieu leur dit, mais voilà, il faut maintenant faire en sorte que dans ton armée, eh bien, ceux qui ont peur, eh bien, ils s'en aillent. Et sur 10 000 personnes, il en restait 300. Vous vous rendez compte, 300? Qu'est-ce que l'on peut faire devant une armée considérable à vaincre qui est en face de nous? Non? Ben, c'est souvent ce que Dieu fait. Il dégraisse. Excusez-moi l'expression. Mais il nettoie. Il fait en sorte que quelque part nous nous retrouvions avec si peu de moyens, qu'avec si peu de moyens, eh bien, Dieu va se glorifier d'autant plus parce que c'est lui qui va intervenir et c'est pas nous. Et c'est ce qui s'est passé avec Gédéon. Il a gagné la bataille. C'est ce qui se passe avec, Jonathan. Il va gagner parce que il sait pertinemment que peu importe le nom, parce que nous, ce sont des calculs humains, tout ça. Ce sont des logiques, ce sont des considérations qui nous sont propres. On nous l'a appris depuis tout enfant, on nous a dit, voilà, les proportions de ceci, la valeur des choses. Une grande armée, c'est une armée qui peut remporter la victoire. Mais avec Dieu, c'est souvent le contraire. C'est quand je suis faible que je suis fort à ce moment-là. C'est quand je me sens impuissant, complètement démuni de tout, qu'à ce moment-là, Dieu me revêt de son esprit, que là, je vois les portes de la victoire et les conquêtes se faire devant moi, hein. Les choses renversées complètement et totalement, c'est un acte de foi. Qui est le plus fort? Ah oui, la question, qui est le plus fort? On a encore une belle proposition qui nous est faite. C'est dans 1 Jean, si ça ne vous ennuie pas, je vais tourner quelques pages de ma Bible, parce que c'est intéressant de nourrir un commentaire de la Bible avec, naturellement, des versets bibliques. Hein. On le sait tous, ça. Et dans Jean, par exemple, vous connaissez la pensée, hein, c'est au chapitre 4 et verset 4. Il est dit ceci, alors c'est le langage de Jean, c'est toujours très, très familier. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous l'avez vaincu parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Est-ce que réellement nous pouvons dire que le Seigneur est en nous? Et si le Seigneur est en nous, quelle crainte pouvons-nous avoir? Qu'est-ce que nous avons à redouter? Puisqu'il nous est dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors celui qui est dans le monde, il fait beaucoup de bruit. Il fait beaucoup d'impression. Il terrorise. Il crée la panique. Il crée la peur. Il génère toutes sortes de sentiments négatifs pour essayer de faire plier les gens, de les faire capituler. Ah oui, c'est la tactique du lion. Un lion, il tue, enfin, d'abord avant de les tuer, il terrorise la gazelle par son rugissement. Et elle devient complètement tétanisée à ce moment-là, et puis elle ne peut plus se défendre. Elle a peu de choses pour se défendre, une gazelle. Mais c'est ça. Et il est bien parlé, finalement, du lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Eh bien, en ce qui nous concerne, c'est la même chose. Il faut que nous puissions nous dire, et Dieu est capable de nous rappeler au moment opportun, mais parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et nous avons finalement les paroles, les promesses de délivrance, de secours, d'aide dans la parole de Dieu, dont nous pouvons nourrir nos cœurs, mais on sait qu'il est vivant justement à travers sa parole, à travers ce que nous savons, et à travers finalement, eh bien là, le saisissement de cette parole dans la foi. Et là, à ce moment-là, c'est l'arme la plus redoutable qui soit pour mettre en déroute, eh bien, l'ennemi, quoi qu'il en soit. Ouais. Celui qui est en vous est plus grand. Et pourtant, on ne le voit pas. On ne le sent pas. Mais on le sait, on le connaît, et on y croit. Et c'est bien la différence. C'est ça, la foi, en quelque sorte. Enfin, en quelque sorte, et oui, qui est le plus fort? Eh bien, si nous vivons en communion avec le Seigneur et que nous le gardons précieusement dans notre vie, il sera là. Il ne sommeille ni le jour, ni la nuit. Il est présent en tout temps, dans toutes les circonstances. Alors, n'allons pas nous imaginer que c'est par la quantité que nous allons être vainqueurs, mais c'est par la qualité des choses. Une grande armée peut être défaite. Hein. On se souvient de certains récits historiques de batailles, et où on a vu des batailles, avec des conflits énormes avec énormément de soldats, et puis des faits par, finalement, un petit nombre inférieur, hein. Qualité ou quantité naturellement. Il y a également un autre aspect, je vais bientôt terminer, mais un autre aspect qui est intéressant, c'est l'histoire du prophète Élisée. Le prophète Élisée s'est retrouvé un jour, parce qu'il a eu des révélations, et puis il a dénoncé finalement des choses qui devaient être restées dans le secret, mais c'était quelque part... un complot contre le peuple de Dieu, et lui, il a une révélation de Dieu, de ce que pouvaient projeter ses ennemis. Et on a su que c'était Élisée qui avait les visions de Dieu, qui avait la révélation de Dieu. Alors quand on a su que c'était lui, bien naturellement, hein, les Syriens, parce que c'était les Syriens à l'époque, se sont dit, cet homme-là, il est dangereux. Il était tout seul, mais il était dangereux, parce que il avait la connaissance que nul autre homme n'avait. Et ils se sont dit, ben voilà, il faut absolument le prendre et puis on va l'éliminer, comme ça on sera tranquille. C'était un espion en quelque sorte, si on peut l'employer aussi dans un terme de notre vie d'aujourd'hui. Dans deux Rois, le chapitre 2, enfin deuxième livre des Rois, chapitre 6, il y a aussi quelque chose qui est extraordinaire et qui souligne, eh bien, la détresse des hommes. Et dans deux Rois, je retrouve ce passage. Alors, 2 Rois, chapitre 6, on va tourner quelques pages, et on le retrouve, voilà, tout de suite. Et voilà, dans ce passage, il est question justement de l'histoire que j'étais en train de préparer à vous raconter. Au verset 15, il est dit cette parole, au moment où le prophète, avec son serviteur, encore son serviteur, était prisonnier dans la ville de Dothan, et l'armée syrienne était tout autour, hein, une multitude, on va le découvrir. Hein. Le serviteur de l'homme de Dieu, donc d'Élisée, se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu auto-délisés. Quand nous apprenons cette nouvelle, nous voyons des chars et une armée. Puis quand les yeux sont ouverts du serviteur, quand il va voir, il va dire ce sont des chars de feu. Pour montrer qu'il y a là quand même une... Et que il y a là une supériorité, parce que c'est une supériorité de réalité spirituelle et invisible. C'est ça ce qui est important. Élisée avait vu, lui, que Dieu allait venir le découvrir. Son serviteur était paniqué, il se dit, mais qu'est-ce que nous allons faire? Il était un peu comme Pierre, hein, par rapport à Jésus, mais qu'est-ce que nous allons faire? Voilà, ça va être la catastrophe, on va être mis à mort. Et à ce moment-là, il va lui dire que ceux qui sont avec eux sont plus nombreux que ceux qui sont contre eux. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est toujours la même proportion. Et ce soir, je voudrais justement que nous soyons bien imprégnés de cette pensée que si Dieu est avec nous, mais qui peut être contre nous? La question, elle est là. Et n'allons pas chercher toutes sortes de moyens de fuite, de pour échapper, pour je ne sais quoi, pour finalement eh bien nous soustraire. La fuite n'est jamais bonne, hein, de toute façon. On est toujours rattrapé d'une manière ou d'une autre. Mais Élisée lui dira, mais écoute, regarde. Il a prié Dieu, il lui a dit, mais ouvre les yeux. Eh bien, ce que nous avons besoin dans nos détresses, et c'est pas facile, hein, quand on est dans une situation, une mauvaise passe, de voir comme il faut voir. On voit physiquement, on voit le négatif quand on souffre, on voit ce qui est mauvais, on ne voit que ce qui est mauvais, on appréhende le mauvais, on se dit, mais c'est je le ressens, donc ça doit être, la suite sera certainement très mauvaise aussi. Alors on se fie à tout cela. Mais avec Dieu, c'est tout à fait différent. Et je pense que nous aurions besoin de peut-être demander de dire, écoute Seigneur, dans mes situations difficiles, augmente ma foi. Donne-moi de voir comme je dois voir, comme toi tu vois. Donne-moi de croire comme tu veux que je croie. Alors à ce moment-là, il y a quelque chose qui se fait à l'intérieur de nous-mêmes. Et nous verrons des chars de feu. Et nous verrons la délivrance de Dieu. Et notre état d'esprit, notre psychologie intérieure, au lieu d'être négative, défaitiste, démoralisée, découragée, elle va devenir positive. Et là, nous allons reprendre confiance. Nous allons reprendre des forces intérieures. C'est toujours ce balancement entre le choix du visible et le choix de l'invisible. Je parle comme ça parce que nous sommes chrétiens, nous savons ce que ça veut dire. Mais c'est difficile de nous détacher du visible, de tout ce que l'on sent, tout ce que l'on touche, tout ce qui est palpable, de tout ce que l'on entend, de tout ce que l'on voit, tout ce que l'on peut goûter d'une manière, toute notre sensibilité humaine. C'est difficile, hein, de se livrer et de dire, eh bien, Seigneur, vous savez que la foi est la démonstration des choses que l'on ne voit pas. C'est Hébreux, hein, ça, hein, chapitre 11, verset 1er. La définition de la foi, c'est ça. Démonstration des choses que l'on espère et des choses que l'on ne voit pas. Et cette démonstration, elle se fait comment? Par la paix intérieure. Alors que tout est bouleversé à l'extérieur, que tout nous dit c'est perdu, c'est fini, il n'y a rien à faire. Eh bien, justement, c'est une démonstration de calme, de repos, de quiétude. Bon, vous connaissez de toute façon, hein, dans Ésaïe chapitre 15, verset 30, ou chapitre 30 plutôt, verset 15, hein, il est dit, mais c'est dans le calme et la confiance que sera votre foi. C'est la tranquillité, c'est dans la tranquillité que sera votre salut. Mais bien sûr, hein, Seigneur, donne-nous de réapprendre et de réapprendre chaque jour. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver, on ne sait jamais les circonstances qui peuvent bouleverser. Aujourd'hui, nous pouvons être en paix, tranquille, puis demain, il peut y avoir un bouleversement. Mais c'est les choses à acquérir. Et vous savez, quand on a déjà fait des expériences dans le passé, dans notre vie, de cette manière, on est beaucoup plus fort pour finalement préparer les autres. Hein. Ouais, préparer les autres dans la mesure où vraiment le lien est tenu, notre communion reste là, forte avec le Seigneur. Hein. C'est ça, démonstration des choses qu'on ne voit pas, mais que l'on croit comme réelles, comme possible, comme vrai, parce que c'est Dieu qui le dit. C'est parce que c'est Dieu qui le dit. Et je terminerai dans 2 Corinthiens, il est donné cette parole. Ben, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure, mais non, c'est dans 2 Corinthiens, c'est encore un autre texte que je voudrais partager avec vous, parce que bon, je pense qu'il évoque quelque chose qui, enfin, il a une signification. Chapitre 4, il est dit ceci, et ça confirme naturellement ce que nous avons pu partager ensemble. Alors, je me trompe toujours entre le premier livre des Corinthiens et le deuxième. Heureusement qu'il n'y en a pas un troisième parce que je m'en sortirai pas. Voilà. Alors, écoutez bien. Paul dit ceci, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, toujours dans la pensée du développement des épreuves et des difficultés. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Et il ajoute cette parole, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, les épreuves et les difficultés que nous connaissons, elles ne sont pas gratuites. » Je veux dire que c'est pas la fantaisie de Dieu de nous faire passer des épreuves, hein, pas du tout. Mais Dieu permet ce genre de choses pour que nous puissions nous fortifier. C'est vrai que quelquefois nous entendons des frères et des sœurs qui soupirent en disant « mais ça ne va pas assez vite, Dieu n'a pas fait ceci, etc. et je vis encore ceci et cela ». Ne vous inquiétez pas pour ça. C'est facile à dire, hein. C'est plus difficile à vivre. Mais une chose qui est certaine, c'est que Dieu va permettre que c'est une école en quelque sorte, et il va permettre que vous puissiez grandir spirituellement, moralement, dans bien des domaines. Et parce que nous regardons, dira Paul, non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, mais celles qui sont invisibles sont éternelles, et Dieu nous prépare. Finalement, pour une autre dimension, il faut le savoir, et ne pas nous inquiéter, tout simplement. La conclusion, on pourrait peut-être la faire avec ce texte de Romains, au chapitre 8, parce que je pense que c'est un très très beau verset, formidable moi pour moi, me semble-t-il, quand il est dit, par exemple, au verset 37, chapitre 8, Romains, verset 37, « Mais dans toutes ces choses, quand je suis mal pris, quand je suis bousculé, quand j'ai de la peine, quand j'ai du chagrin, de la tristesse, de la souffrance, quand mon âme est bouleversée, quand je ne sais plus où j'en suis, mais dans toutes ces choses, nous dit Paul aux Romains, nous sommes plus que vainqueurs, et il y a une raison pourquoi. Par celui qui nous a tant aimés. Si nous sommes enfants de Dieu, nous ne sommes pas sous un régime de loi ou d'une adoption légaliste, dénuée de tout sentiment, non. C'est parce que Dieu nous a aimés. Chacun d'entre nous, c'est ça la difficulté de comprendre pourquoi nous passons des épreuves et des difficultés, en disant « mais je suis chrétien et voilà, je... » Et oui, parce que nous sommes aimés de Dieu. Et c'est difficile quand on souffre de se dire que Dieu nous aime. Certains auraient pu dire et peuvent dire « Seigneur, tu m'aimes un peu moins et je suis plus tranquille. » Mais l'amour ne fait pas de mal. Au contraire, l'amour, c'est autre chose. C'est une autre dimension. Car j'ai l'assurance, dira Paul, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ne pourra, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Nous croyons en Jésus-Christ, nous avons l'essentiel. Nous recevons sa parole et nous la croyons, nous avons tout ce qui est nécessaire. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Question, hein? D'où me viendra le secours? Parce que dans votre Bible, il y a un point d'interrogation. Et il ajoute tout de suite, et le secours me vient de l'Éternel. Parce que ce sont des choses... Et là, nous pouvons peut-être souligner le deuxième texte que nous avons lu, parce que ce sont des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, que l'homme n'a ni vu ni entendu, mais qui nous sont révélées par le Saint-Esprit au moment où nous sommes dans l'épreuve. Et combien d'expériences nous avons-nous pas fait lorsque, dans nos détresses, où nous nous sommes peut-être traînés à venir dans un culte ou une réunion d'évangélisation, et que nous sommes venus avec notre fardeau complètement écrasé, et que là, à travers un don spirituel, à travers une prédication, à travers une salutation de quelqu'un qui est venu vous donner un petit message d'affection, ou à travers un cantique, à travers un chant, et là, c'est monté à votre cœur, et c'est par le Saint-Esprit que vous avez repris courage, et que Dieu vous a parlé, car le secours me vient de l'Éternel, tout simplement celui qui a fait le ciel et la terre. Dieu ne va pas nous abandonner. Et je pense que c'est une exhortation pour chacun d'entre nous. Je pense que tous nous avons connu des épreuves, des séparations, toutes sortes de choses difficiles. C'est vrai. Mais n'allez pas penser que celui qui est en vous serait inférieur à celui qui est dans le monde. Nous étions dans le monde auparavant. Et nous nous débrouillions un peu comme Pierre. On sortait l'épée, vous comprenez? On se défendait avec les piètres moyens et les moyens ridicules que nous avions à ce moment-là. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Nous avons deux vies. Une qui a pour horizon le visible, ce monde matériel, cette vie. C'est une réalité. On n'est pas des mystiques. On n'est pas encore des anges. Donc, il faut faire avec. Ça, c'est sûr. Mais il y a une chose qui nous rassure. C'est que même si nous ne le voyons pas, nous avons un Dieu, nous avons un Sauveur, nous avons quelqu'un qui nous a ouvert la route. Et on peut toujours prendre ce psaume, comme nous l'avons vu, le 121. Servez-vous-en pour en faire peut-être, eh bien là, comme le 91. Ce sont des psaumes qui sont les psaumes de la détresse humaine, mais qui nous montrent, ou le psaume 107 également, qui nous montre que jamais celui qui met sa confiance en Dieu ne sera déçu, ni jamais confus, parce qu'il nous fait, il nous donne l'assurance qu'il est plus grand que tout, et il vient pour nous délivrer. Maintenant, jusque dans l'éternité. On va prier quelques instants si vous voulez, que Dieu nous bénisse à travers sa parole ce soir. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous croyons en effet, Seigneur, que par-delà de simples mots, des petites paroles, toutes ces choses, Seigneur, qui appartiennent à notre dimension humaine, mais toi, tu es capable de leur donner une résonance, un rayonnement, un écho, Seigneur, dans les cœurs et dans les vies. Parce que, c'est vrai, Seigneur, il y a tant de détresse, tant de préoccupations, tant de questionnements, tant de perplexités, qu'en effet, Seigneur, l'homme a besoin. En effet, Seigneur, parfois de se détacher de tout sur lesquels, les choses sur lesquelles il se positionne, il s'appuie, et il reprend confiance, ou il trouve sa confiance. Et nous croyons, Père éternel, que toi, tu es notre confiance. Tu es notre appui, tu es notre foi, tu es, en effet, notre assurance. Tu es, comme la parole le dit, tu es notre haute retraite, notre asile protecteur. Tu es tout, Seigneur, pour celui qui croit en toi. Alors c'est vrai que, en effet, tu as réservé ces choses pour ceux qui t'aiment. Et je crois que, en sachant que nous ne craignons rien parce que par celui qui nous a aimés, comme tu nous l'as dit, à cause de l'amour, eh bien, de Jésus-Christ, eh bien, nous voulons véritablement, eh bien, te demander que cette force que nous trouvons en toi soit aussi, Seigneur, cette ressource que nous puisons dans ton amour, hein, sachant que nous ne sommes pas rejetés, mais que nous sommes aimés, et que rien, en effet, ne peut nous séparer de ton amour, de ton affection profonde, puisque tu as donné la preuve en donnant Jésus-Christ. C'était le plus grand sacrifice qui n'ait jamais été fait sur la terre pour sauver les hommes. Et puis, de savoir que nous, faiblement, eh bien, notre amour rime aussi avec notre foi et notre confiance en toi. Parce que ce sont deux mots qui sont associés. Quand on aime, on fait confiance. Quand on aime, on a la foi dans la personne que l'on aime. Eh bien, Seigneur, c'est vrai dans notre rapport humain, en général, mais c'est vrai également dans notre rapport entre toi et nous et toi, Seigneur. Tu bénis ta parole ce soir et que ça puisse être un formidable encouragement par ton esprit. Les mots sont les mots. Et je crois qu'au-dessus des mots, il y a véritablement l'action de ton esprit pour ceux qui sont dans la peine et dans la détresse, qui pleurent, qui sont dans la tristesse, qui sont dans les cris. Seigneur, dans le nom de Jésus, visite-les, bénis-les, Seigneur, par ta parole. Et nous voulons trouver, Seigneur, c'est vrai, un grand plaisir à nous souvenir de ce passage que nous avons dans les psaumes. Il envoya sa parole et il les guérit. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Merci Jésus. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.